France Inter.
Je suis une Gen Z, évidemment que je préfère faire du télétravail chez moi en pyjama plutôt qu'aller au bureau pour voir mes collègues.
La Gen Z, elle a pas le temps d'attendre, elle va vite, elle va très vite. Et c'est au monde du travail de s'adapter et pas l'inverse.
C'est la génération qui est la plus critiquée depuis des années parce qu'on nous traite de feignants, qu'on critique tout. Ok, ouais, il y a peut-être des raisons.
Ils sont nés entre 1995 et 2010. On les appelle la génération Z, la Gen Z. Une génération arrivée alors qu'Internet était déjà bien installé dans la société. Une génération qui serait du coup déconnectée du réel. On l'a dit volontiers, individualiste, peu travailleuse tout en exigeant beaucoup, peu impliquée tout en réclamant du sens. En réalité, au-delà des clichés, cette génération bouleverse le monde du travail. Elle questionne les rapports hiérarchiques, la verticalité, l'autonomie, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En face, certains employeurs sont désemparés, désarçonnés par ces jeunes salariés qui font du ghosting, qui disparaissent du jour au lendemain, ou qui font du quiet quitting, c'est-à-dire le strict minimum, pour reprendre des expressions popularisées par la Gen Z sur les réseaux sociaux.
Contrairement à ce qu'on peut dire parfois, cette génération s'accroche, bosse et a envie. Même si, oui, c'est vrai, de temps en temps, quand elle ne veut pas y aller et quand elle ne veut pas bosser, elle ne veut pas bosser.
Génération Z, une autre vision du travail, c'est un reportage de Faouzi Trita, parti à la rencontre de Valentina, Maxime, Maëlys, Léiane ou encore Rémi. Direction d'abord Coignières, dans les Yvelines, avec à la prise de son, Lucien Lefebvre.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Maëlys.
Salut.
Enchanté. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va. Merci. Bah, t'es à l'heure. C'est magnifique. Bah, on va aller voir Victor alors.
Ok.
Bah,
on
écoute,
y va.
Je te suis.
Ça marche.
Bonjour monsieur. Ouais, il nous attend. Oui. Victor. Ok. Bonjour monsieur.
Victor.
Enchanté. Oui hein. Maëlys, que vous connaissez bien sûr.
Oui. un petit moment. Ah, là, oui.
Alors là, j'accompagne Maëlys. On est au siège de la société Design Pool. C'est une entreprise qui dessine et qui fabrique des piscines. Alors Maëlys, elle a 24 ans. Elle a travaillé ici plusieurs mois. D'abord en stage. Elle a ensuite été prise en CDI, mais finalement, elle a démissionné. Et c'est la première fois qu'elle revient dans les locaux de l'entreprise. Je lui ai demandé de venir, car je voulais qu'elle se confronte à son ancien employeur, Victor Lima.
Un peu en avant, c'est bon.
Il n'y a pas de problème.
On va, pareil, on va quand même, justement, on est un peu en travaux,
au niveau organisation pour la partie administrative.
Et là, donc, vous nous montrez l'organigramme. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes?
Oui, surtout dans la partie administrative, justement, où il faut être un peu plus dynamique, un peu plus créatif,
ouais.
Entre 25 et les 45 à peu près.
Donc vous avez un peu toutes les générations.
Oui, voilà, c'est aussi l'avantage donc, de pouvoir apprendre un peu avec des gens qui sont déjà plus expérimentés dans le terrain, plus habitués à plus de différentes circonstances.
Bonjour.
Je vous présente justement, vous connaissez déjà, donc Jessica, entre guillemets, mon bras droit, tout ce qui concerne la partie administrative. Elsa, c'est toute la partie de gestion. Et Sandra, qui s'en occupe de sa partie comptable de la société.
Maëlys, quand tu reviens un peu dans en fait, ces nouveaux
ouais.
locaux,
ah ouais, là,
tu sens un peu l'ambiance travail
Ouais, je la sens bien. Chacun son petit bureau.
Ça.
Sur l'ambiance, tu vois, quand tu revois je vois des dossiers, des bureaux, l'administratif,
ouais. Ouais.
Est-ce que ça c'est quelque chose que tu voulais plus en fait?
Parfois ça me manque un petit peu. Enfin, j'aimais beaucoup le travail en lui-même que je faisais. Franchement, c'était génial faire des plans et tout. Mais c'est vrai que juste en fait, être sur une chaise toute la journée comme ça, là, ça me fout. Je suis contente de ne pas être là et d'avoir mon emploi du temps à moi que je choisis en quelque sorte. C'est pas mal.
Alors Maëlys, je résume ton parcours comme tu me l'as décrit quand on s'est parlé au téléphone avant que je vienne. Ton parcours, c'est baccalauréat scientifique, une fac d'anthropologie que tu as laissé tomber en première année, tu as réussi à rebondir, tu as fait une école de paysagisme, ça t'a plu, et puis tu as atterri ici, chez Victor. Tu es passé du stage au CDI, on se dit, là comme ça sur le papier, c'est parfait, et pourtant non.
Au début, j'ai vraiment adoré. Pour le coup, j'avais pas peur de travailler parce que donc je faisais à peu près les mêmes horaires que Victor. On commençait à 6h40 au bureau et après je l'accompagnais voir des clients de temps en temps. Enfin voilà,
les chantiers, faire des relevés de terrain, faire des implantations de chantiers. En fait, c'était ça qui était plutôt intéressant en fait.
Mm-hmm. Ouais, on voyait un peu tout. C'était plutôt cool. J'ai appris beaucoup. Donc vraiment, j'aimais bien ce que je faisais. Le problème, c'est que j'avais pas beaucoup de vie parce que je travaillais en 39 heures, mais j'avais 1h30 de trajet aller, 1h30 de trajet retour. Donc en fait, j'étais pas chez moi de 7 à 19 heures et après, il reste 12 heures pour. C'est pas grand chose quoi. Enfin, j'avais pas trop le temps de faire tout ce que je voulais faire. Même si on aime bien son travail, on n'a pas forcément envie de passer tout notre temps à faire ça. Enfin, il y a quand même pas mal de choses extérieures à voir. La vie, il faut la découvrir et il faut pas la subir tout le temps. En fait, ça prenait trop de temps sur la vie perso. Je rentrais chez moi, quelques petits trucs, et puis j'allais dormir parce que j'étais fatiguée. Et c'est pas une vie. Je comprends pas comment on peut vivre sa vie comme ça. La semaine pour travailler, le week-end pour vivre, ça fait quand même pas beaucoup sur une vie humaine. Enfin, 2 jours sur 7.
Tu aimerais faire quoi ?
Quelque chose qui ait vraiment du sens. On faisait des piscines en béton, ce qui n'est pas très écolo. Je ne me sentais pas à ma place. Et aujourd'hui, la restauration, au moins, je travaille beaucoup aussi. Et en fait, quand je ne veux pas travailler, je ne travaille pas. Et quand je veux travailler, je travaille. En fait, c'est comme on veut, quand on veut. On a beaucoup plus l'impression de contrôler sa propre vie, quoi.
Donc, il y a le rythme et les valeurs.
Ouais, c'est ça. C'est les deux trucs vraiment importants. Rythme et valeurs. Si on ne s'épanouit pas, mieux vaut se tirer une balle tout de suite, hein, je pense. En fait, tous les mécanismes de la société qui sont portés autour du travail, on commence enfin à... Je sais pas, en fait, comment vous faisiez, vous ? Bande de vieux. Ouais, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était... Bon, bah, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et on se pose pas de questions. Aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait comme on a toujours fait si on peut trouver mieux ? On se rend compte qu'aujourd'hui, la classe moyenne, on nous donne accès à du confort. Mais, en fait, le confort, ça suffit pas. Il faut... savoir ce qu'on veut et faire ce qu'on veut.
Et l'avenir, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ? Parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie.
Ouais. Mais non, j'appréhende pas du tout l'avenir. Enfin, on peut toujours se débrouiller, en fait, à quand même un minimum. Peut-être que ça va devenir plus difficile quand j'aurai 50 ans et que voilà. En fait, la question ne se pose pas. Pour l'instant, on vit sur le présent et puis on verra bien de quoi demain est fait.
Victor, quand vous entendez Maëlys avec un discours qui est très à l'opposé des générations précédentes, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous vous sentez dépassé ou vous vous dites « c'est des jeunes, c'est normal qu'ils pensent comme ça ».
Plus j'entends les jeunes, plus je me sens heureux dans ma vie. Parce que je me disais « tiens, on a eu la chance, je pense ». D'être né dans les années 80, enfin entre 70 et 90 maximum. J'ai entendu encore mes grands-parents qui sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu, entre guillemets, quelque chose d'horrible. Et effectivement, la valeur du travail, la valeur du respect. Je pensais à l'avenir. C'est mes grands-parents, ils n'ont jamais parti en vacances. Mes parents, ils n'ont jamais fait un resto. Et en fait, moi, je me vois gagner de l'argent. Et je peux aller au resto tous les week-ends. Je peux partir en vacances 2-3 fois dans l'année, grâce à mon travail, que j'ai travaillé pendant, justement, comme disait Maëlys, pendant 50 heures, 70 heures dans la semaine. Mais après, je pourrais me faire plaisir. Et en fait, c'est cette question-là, cette notion de prudence en disant « Ah, j'ai de la chance, je peux, mais il ne faut pas oublier, comme je dis, la prudence. »
On peut s'amuser sans argent. On n'a pas forcément besoin de gagner énormément pour pouvoir faire des trucs cool. Donc certes, ça facilite quand même les choses, hein, on va pas se mentir. On n'est pas là pour gagner 10 000 balles, faire 3 semaines sur un yacht de luxe et... et rentrer
mais
à la maison.
Oui, mais la question, elle n'est pas là, justement. C'est qu'il faut que ça paye maintenant, pas après. Ouais. Et c'est là où c'est complètement l'opposé. Et comme les gens aujourd'hui, justement, c'est quoi mes droits? C'est quoi mes vacances? C'est quoi mes horaires? Et c'est là où je pense qu'effectivement, il y a un petit, entre guillemets, dans le bon sens, conflit entre nous, en fait, qu'on essaye de construire quelque chose avec le fruit du travail et la nouvelle génération qui veut profiter de la vie et le futur, on verra bien. Tranquille, on s'en fout. Indépendamment de ce que vous donnez comme conditions de travail, comme salaire, comme avantage, finalement, ce n'est pas ça qu'ils cherchent, en fait.
Ouais, c'est une autre vision de la vie, je pense. Plus les mêmes attentes de récompense. Notre vie ne doit pas tourner autour du travail. C'est le travail qui doit tourner autour de notre vie. Et après, ce qu'on peut donner au travail, ce qui nous reste à donner au travail, on le donne.
On se lève, on se lave, ensuite on va au boulot. Dans le but de faire du chiffre et d'ajouter quelques euros. Quand les créateurs de vide sont devenus nos héros, on ne voit plus l'exclu qui seul en bas voit au boulot. J'ai quitté ma tour pour aller bosser dans une tour. La concurrence me fait la cour quand les collègues me jouent des tours. Et on a la pression pour faire plus de chiffres. Il y a de la tension dans le self et un cadre vient de se prendre une gifle. On se lève, on se lève.
Bonjour Liliane.
Bonjour. Je vous écoute. Moi je vais prendre un café. Un expresso.
Un café lent pour moi s'il vous plaît. Je suis à Nice. Je vais retrouver Liliane. Elle a 23 ans. Et j'ai eu son contact en préparant ce reportage par le bouche à oreille. Et ce qui est ressorti de nos échanges, c'est sa difficulté à travailler avec la génération précédente et même à cohabiter avec elle entre les murs de l'entreprise.
Moi je m'appelle Liliane, j'ai 23 ans. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai fait quelques petits boulots, mais ça ne m'a pas forcément plu, le monde du travail. Donc j'ai repris l'école. Je suis en licence de communication et ça me plaît.
T'as fait quoi comme petit boulot?
J'ai travaillé dans la restauration en premier. J'ai fait l'usine aussi. J'ai travaillé à Carrefour. Ça a été mon plus gros job. J'ai fait 6 mois, je crois. Ça s'est bien passé, mais j'ai eu quelques mauvaises expériences. On était quelques jeunes, mais il y avait aussi beaucoup d'anciens. Il y en avait qui étaient vraiment super sympas, qui avaient un peu un rôle de parent ou vraiment de frère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais il y en a certains qui lancent des piques tout le temps, à tout va, pour rien. Des réflexions sur chacun de nos faits et gestes, sur notre façon de nous habiller ou le maquillage, ou pourquoi est-ce qu'on a parlé à ce client. C'est tout le temps critiqué.
La génération 2000, c'est la génération qui sert à rien. C'est une catastrophe.
Tu veux qu'ils restent le soir pour finir un truc, ils disent non.
Elles savent que se maquiller, prendre des selfies avec leur putain de filtre, et c'est tout.
Tu peux pas leur foutre un meeting entre 13h et 14h?
Non, parce qu'ils vont au yoga.
Franchement, la génération 2000, elle fait pitié.
La laver et l'espresso.
Merci.
Merci. La pire, c'est peut-être quand je me suis fait virer, du coup, de mon dernier emploi. J'étais venue un jour en jogging, parce que j'étais en période menstruelle. Et mon responsable m'a dit « Ah non, ça va pas être possible du tout. »
Donc, au travail, tu t'es pas sentie libre?
Non, du tout. Non, on n'est pas libre au travail. Je pense que eux, dans leur génération, ça devait être très différent, même au niveau de la hiérarchie. Ils n'avaient pas forcément le droit de s'exprimer, peut-être. Ils n'avaient pas l'habitude de s'exprimer, je sais pas. Ils fermaient beaucoup leur bouche. Nous, on l'ouvre un peu plus. Donc, y a un grand écart entre nos deux comportements. Je pense que quand ils étaient plus jeunes, ils étaient très dans les règles. C'est comme, par exemple, aussi, j'avais fait un petit job dans un market. On avait des horaires fixes, 8h, 14h. Donc tu viens 10 minutes avant, tu te prépares, etc. à 8h et tu pars à 14h. Je terminais souvent 20 minutes après, 30 minutes après même parfois. Bon, c'était quand même des minutes de travail en plus et je ne suis pas là pour faire du bénévolat. Moi, si je suis là, c'est pour travailler, pour avoir de l'argent. Donc chaque minute supplémentaire, je voulais qu'elle soit rémunérée. Donc j'ai pris l'initiative de prendre une feuille blanche à 4 et d'aller marquer toutes mes horaires par minute. Donc quand je finissais à 14h20, j'écrivais 14h20 et je lui demandais de signer. Ça a duré 15 jours parce que j'ai été virée le lendemain.
Et par rapport à tout ce que tu m'as raconté, c'est quoi qui coince? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous comprendre comme ça?
Dans les anciennes générations, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous, on s'exprime beaucoup aussi sur les réseaux sociaux entre jeunes, même si on ne se connaît pas forcément, on parle de toutes nos expériences. Moi, personnellement, je prends exemple des mauvaises expériences des autres. Eux, avant, c'était vraiment le travail, c'est toute leur vie. C'est la raison de vivre, même limite. Même j'ai déjà menti dans un entretien par rapport à ça. J'ai menti en disant que je voulais vraiment trouver un sens à ma vie et que les aider, ça allait m'aider à trouver un sens dans ma vie. Mais en réalité, c'était juste pour avoir le poste, quoi. Mais eux, c'est ce qu'ils veulent entendre, en tout cas. On donne notre vie à cet emploi.
Si une partie de la génération Z a aujourd'hui du mal avec le travail, une partie du monde du travail a aussi du mal avec elle. Dans une enquête de 2024 sur le rapport au travail de la génération Z, Ipsos souligne par exemple les difficultés des chefs d'entreprise et des managers à appréhender cette génération. 57% d'entre eux estiment par exemple que les moins de 30 ans sont moins investis que leurs aînés au travail. 72% les jugent moins fidèles à l'entreprise et 53% moins respectueux de la hiérarchie. Direction maintenant la Dordogne, près de Périgueux, Faouzi Trita a poussé la porte de la boulangerie de Cédric Rénal.
On est en Dordogne, à quelques kilomètres de Périgueux, au 65 impasse des Artisans, à l'Aiguillac de Loche. C'est là où est installé Cédric Rénal depuis plusieurs années. Il travaille pas mal avec des apprentis et il m'a dit de passer dans la matinée. Bonjour. Bonjour, monsieur Rénal.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça sent bon ici?
Oui, ben c'est toujours les bonnes odeurs de la boulangerie.
D'ailleurs, il reste plus grand-chose. Là, ce matin, vous êtes fait dévaliser. Hein.
Quand vous faites votre viennoiserie, votre pain, sans additifs, sans améliorants, on arrive aux produits de qualité que les gens aiment.
On fait des présentations? Qui c'est qui m'a reçu, là?
Alors là, vous avez Karen, qui est en première année vendeuse, CAP vente polyvalent.
Enchantée.
Et nous entrons directement dans la pâtisserie. Vous avez le matériel, donc un laminoir, voilà notre grande table pour travailler et fabriquer notre viennoiserie. Voilà. Et nous entrons, vous voyez le changement de température.
Il fait chaud là.
Oui, ça c'est le four à bois qui est toujours maintenu à forte température. Notre apprenti Rémi, qui commence son CAP boulanger pour 2 ans ici.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé ici, à la boulangerie?
Moi, c'est en troisième que j'ai cherché ce que je voulais faire. La boulangerie, ça m'a intéressé. J'ai trouvé ici et j'ai pu me lancer dans mon apprentissage. C'est 3 semaines de boulot pour 1 semaine d'école. Donc moi, ça me va très bien comme ça. Il y a tous les fours, le four à bois. Ça, il n'y a pas toutes les boulangeries qui l'ont. Mais du coup, ça me fait voir un truc en plus. Ça, c'est bien.
Raconte-nous, par exemple, aujourd'hui.
Aujourd'hui, je me suis levé à 3h. Pour arriver ici à 4h30. Après, j'ai doré des chocos, des pains au lait. Je les ai mis au four, j'ai plaqué la viennoiserie, j'ai mis au four à bois. Après, j'ai fait les levains, j'ai fait les paillons aussi. Je comptais faire le pain grillé. Parce que ça prend un petit peu de temps. Je vais chercher le pain grillé. Hop. C'est du pain qui date un petit peu, qui n'a pas été vendu. Donc au lieu de jeter, on le grille. Ça évite de gaspiller, ça évite de perdre trop d'argent non plus.
Rémi, ça va?
Ça va.
Tu en es où dans ton travail?
J'ai plus grand chose à faire. Je finis le pain grillé, le bois, Et après, j'ai le ménage.
T'es dans le timing, c'est bien. T'es bien organisé. C'est important, l'organisation dans le travail. C'est les métiers passion, mais on a beaucoup, nous, en tant que professionnels, l'impression que beaucoup veulent le faire, mais sans cette passion. Par exemple, d'être passionné au point de regarder des émissions télévisées ou des meilleurs ouvriers de France sur Instagram. Tu vois, moi, quand j'en parle, je pourrais en parler pendant des heures. Mais tu fais partie de cette nouvelle génération que nous, on a l'habitude de voir aujourd'hui, qui, quand le travail est terminé, c'est passé, quoi. C'est, on passe à autre chose, quoi.
Oui, non, je suis d'accord. Là, c'est sûr, maintenant, je pense plus à s'amuser en priorité, moi y compris.
Comment tu me vois, moi, passionné? Tu me dis, il est fou dans son travail? Il est comment?
Je vois 100% investi dedans.
Et j'aimerais bien te le donner, ça. J'aimerais bien.
Oui. Vous, je vois travailler 7 jours sur 7, vous pouvez très tôt, finir tard, être à la fois au magasin et ici en boulangerie. Je pense que c'est pas une chance. C'est énormément d'investissement.
Je vais l'encourager jusqu'à la fin, puis après il fera sa vie. Hein, et voilà, je ne peux pas faire plus. Je vais lui donner le maximum et après et il choisira. C'est le but.
Travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie, faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le rater, mon ami, faut travailler.
Hey, tu veux bosser sur le terrain, fais belle et cauchemite. Hey. Mais c'est mieux qu'être au SMIC. Dans tous les cas, va falloir transpirer. Rien n'est donné, chaque euro est compté. Alors prépare-toi mon poteau. La vie c'est pas un film, non. Faut se lever très tôt, le réveil c'est les insignes.
Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler.
Alors quand on entend les échanges entre Rémi et Cédric, on sent le décalage qui peut exister entre les générations. Un patron plutôt rude, à l'ancienne, en mode « on ne se pose pas de questions, il faut se lever tôt, il faut bosser, bosser dur même, il faut avoir la passion du métier ». Et en face, un apprenti de bonne volonté, mais il est vrai qu'à 16-17 ans, pas avoir la passion, ce n'est pas un drame. Alors, est-ce que la recherche de sens, l'absence de passion absolue, les incertitudes quant au marché du travail, au type d'emploi, est-ce que ça suffit vraiment pour condamner la génération Z? Dans les faits, c'est pas si simple.
Élodie Gentina, je suis enseignant-chercheur à l'IESSEG School of Management et conférencière en entreprise sur la génération Z, donc les jeunes, et toutes les questions autour de l'intergénérationnel. En fait, on est passé d'une culture pressée à une culture de l'instantanéité. Avec ces jeunes, en fait, c'est clair comme ils ont leur portable, leur smartphone, leur iPhone à portée de main, à portée d'écran, ils ont accès constamment à l'information tout de suite. Donc c'est clair que voilà... Peut-être que les jeunes d'avant regardaient le journal TV à 20h avec leurs parents. C'était avant. Aujourd'hui, ils vont accéder directement à l'information. Et donc, c'est compliqué d'attendre pour eux. Et idem, hein, quand on leur pose la question « Mais comment tu te vois dans 5 ans ?» Voilà la fameuse question qu'on pose en entretien de recrutement. Ils nous disent « Mais dans 5 ans, je ne sais pas si je resterai chez vous. Je ne sais pas si je serai toujours chez vous. » Et donc, quelqu'un qui ne comprend pas cette génération-là, parce qu'il provient d'une autre génération, peut se dire, mais en fait, le jeune n'est pas motivé, puisqu'il n'a pas de plan de carrière. Il a du mal à anticiper l'avenir. Il ne sait pas répondre à cette question. Et pourtant, en fait, c'est pas ça. En fait, le jeune va vous répondre avec franchise que s'il est bien, il reste, mais qu'à plus d'un an, il n'y a pas de vision à long terme. Et en fait, les jeunes sont globalement quand même inquiets du monde dans lequel on est. Donc ils vivent l'instant présent, ils ont du mal à anticiper, ils ont du mal à voir le futur. Les anciens ont plus une vision linéaire, où avant, voilà, hein, on quittait le domicile, on avait la première voiture, on cherchait à se marier, à acquérir la première maison. Pour eux, voilà, toutes ces phases qui étaient des rites de passage sont en train d'être remises en cause. Ils ont plutôt une vision qui est vraiment circulaire au niveau du temps. Et donc c'est cette culture de l'expérimentation. J'essaie, je peux me tromper. Il faut essayer de comprendre qu'on est dans un autre fonctionnement. Quand j'ai mené une étude auprès de 3500 jeunes, je leur ai posé la question « Qu'est-ce qui fait que demain, tu as envie d'être fidèle à l'entreprise ?» Le premier critère, c'est l'ambiance. L'ambiance, l'esprit d'équipe. Le deuxième, c'est renouveler mes compétences en permanence. On voit que le salaire, c'est important, mais ce n'est pas le numéro un. Le salaire, voilà, c'est important pour n'importe quelle génération de bien gagner sa vie, bien évidemment. Et encore plus pour les jeunes issus de catégories socio-professionnelles, voilà, un peu plus voilà, en difficulté ou vulnérables, bien évidemment, par rapport au rapport à l'argent. Mais si on veut engager, il faut être sur la reconnaissance existentielle. Il faut aller sur l'ambiance. On a envie, le matin, de se lever en se disant « je suis heureux d'aller voir mes collaborateurs, je suis heureux de retrouver un esprit d'équipe et on aimerait bien se voir tous les jours pour bosser ensemble. »
La Gen Z, vous faites comment en entreprise? Ça fait 3 semaines que j'ai commencé à bosser, je suis déjà surmenée. Et pourquoi je suis dépassée? Parce que j'ai des putains de collègues qui sont archi problématiques et qui sont 100% sans gêne. Pour moi, en fait, je le prends grave à cœur. Genre, ça me pèse de ouf sur mes journées. En fait, j'ai grave du mal avec la fracture générationnelle déjà de base. Et là, dans le taf, je sens que ça va être un problème. Mais comment ça se passe pour vous, en fait? Genre, enfin... Est-ce que vous finissez par arrêter de prendre à cœur tout ça pour mieux vivre?
Bien travailler avec la génération Z, c'est devenu une préoccupation majeure chez les employeurs. Elodie Gentina, elle propose des formations aux chefs d'entreprise qui se heurtent à cette Gen Z, qui ne sait pas comment la motiver, comment lui parler, comment l'appréhender, comment la fidéliser. Parmi ses clients, des PME naturellement, mais aussi des multinationales emblématiques comme McDonald's qui travaille énormément avec les jeunes de cette Gen Z. Et aujourd'hui, l'ancien DRH de McDo a rendez-vous avec Elodie Gentina.
Hervé Baron, je suis DRH depuis maintenant 35 ans. J'ai eu le plaisir de bosser pour quelques très belles marques, notamment agroalimentaires. Plus récemment, dans la restauration rapide, chez le numéro 1 mondial, McDo, 1600 restos en France. Et je suis à mon compte depuis maintenant 18 mois. McDo, c'est 40 à 50 000 jeunes recrutés chaque année. Quasiment une génération complète de jeunes. Dire qu'ils ne s'intéressent pas, je trouve que c'est assez faux. Ils s'intéressent quand on leur donne les leviers de s'intéresser dans leur façon à eux d'apprendre, de travailler, de progresser. Et c'est assez caractéristique, je ne sais pas ce que tu en penses Elodie, mais de cette génération Z qui aime la transversalité plus que la verticalité, plus que l'autorité et la légitimité. Ils la reconnaissent, l'autorité pas toujours. Et ça, je trouve que c'est très novateur et ça nous apporte beaucoup à nous, les boomers, qui avons appris que c'est comme si et c'est pas comme ça. Même si on avait une relation au travail plus durable, on zappait moins.
Moi, je dis souvent, on passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. C'est-à-dire que cette fameuse autorité « tu m'écoutes car je suis le chef », aujourd'hui, ça ne fonctionne plus avec eux. Et pour eux, un bon manager, ce n'est pas un chef, c'est un manager qui est empathique, qui est bienveillant. Si pour eux, le manager est légitime, parce qu'il sait expérimenter, il sait être à l'écoute, ce n'est pas celui qui est au dernier graal de l'entreprise, enfermé dans son bureau, sans être proche de ses équipes, mais au contraire, qui va aller voir ses équipes, voir si ça se passe bien, si les gens sont heureux, si les gens bossent bien, s'ils ont des questions. C'est ça qu'ils recherchent. Et donc, on a envie de leur apprendre, mais eux aussi, ils nous apprennent dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, l'inclusion, la diversité, social, environnemental, et dans le domaine des langues, parce qu'ils ont une vision très internationale, puisqu'ils sont très mobiles.
Ce qu'on se dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de changements avec la génération précédente, où c'était, on te donne un ordre, tu l'exécutes, parce que c'est le travail et c'est comme ça. Et désormais, on a quand même l'impression qu'il faut faire beaucoup de circonvolutions avant d'avoir peut-être le travail effectué.
C'est pas des circonvolutions, c'est des explications. C'est de l'éclairage, c'est du sens et c'est, je trouve, aussi enrichissant pour celui qui doit passer par ces explications parce que ça l'amène à préciser ses idées, ce qu'il est en train de demander. Et il n'y a pas que les générations Z qui demandent ça. Finalement, on est rentré dans un univers au travail où exécuter pour exécuter, plus personne n'en veut, mais c'est une bonne chose. On a besoin, on a le devoir, on a l'intérêt d'expliquer. Donc non, c'est pas vraiment de la circonvolution, c'est de l'explication et c'est parfaitement et légitime et hyper efficace. La génération Z, elle est aussi le fruit de ce qu'on a fait pendant des années. Quand on entend certains plus anciens qui disent « je comprends pas, ils sont pas fidèles, ils sont prêts à s'engager jusqu'au bout chez nous », ah oui, mais quelles sont aujourd'hui les boîtes qui sont capables de dire « je m'engage à te conserver un emploi sur les 40 prochaines années » ? Aucune. Donc c'est une forme de réciprocité. On essaie de bosser avec envie le plus longtemps possible ensemble. Le tout est de se, quand on se sépare, de se séparer en bonne entente.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on parle de séparation, ils n'ont pas la même notion de séparation, eux. On l'appelle aussi la génération boomerang, c'est-à-dire que quand ils quittent une entreprise, ils peuvent dire bah, « peut-être que j'ai envie de quitter l'entreprise pour une certaine période, 6 mois, 1 an ». Et parfois, il faut prendre le temps quand on a voilà, des jeunes qui sont compétents et on se dit « peut-être leur laisser une certaine liberté et accepter le fait qu'ils puissent revenir dans 6 mois, dans 1 an, mais qu'ils reviennent avec un œil nouveau ».
Si la Gen Z, elle est pas fidèle, s'il faut tout lui expliquer, si elle a besoin de sens, si elle veut travailler avec ses valeurs, si elle a besoin d'une bonne ambiance au travail, beaucoup vont se dire, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'exigences.
Alors, ils ont d'autres attentes, ils ont envie de faire les choses autrement. Et finalement, qu'est-ce qui vaut mieux ? Un jeune engagé, mais qui questionne ? Ou quelqu'un qui fait du présentéisme, qui est là parce qu'on lui dit d'être là, qui respecte ses horaires et qui ne s'intéresse pas à son travail. Et puis, peut-être que leur façon d'aborder le travail, ça va peut-être aider à avoir une autre relation au travail. Moi, j'y crois beaucoup. Alors certes, il y a des trucs hyper agaçants. Et en fait, il est temps de regarder les choses différemment et de s'adapter à des modes de vie, à des modes de fonctionnement, des modes de travail qui nous apporte tout autant que la très très belle verticalité où quelques-uns savent et tous les autres exécutent, quel qu'en soit le prix pour leur propre santé, physique et mentale. On peut toujours se rouler par terre et se dire qu'on ne veut pas de cette génération Z, mais ça tombe bien, c'est elle qui arrive, c'est elle qui grandit, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Donc moi je pense qu'il vaut mieux accompagner le mouvement plutôt que de se dire non, je serai celui ou celle qui va résister, pas de jeune chez moi. Et le ghosting, c'est jeunes qui ne viennent pas, qui ne répondent pas. Dans combien de boîtes on n'a pas répondu à un candidat ? Ou alors on lui a répondu « merci de votre candidature, merci, au revoir, on vous rappellera et on ne rappelle jamais ». Donc la façon dont ils agissent est aussi le reflet de la façon dont on peut agir. Et je suis extrêmement optimiste. Cette génération n'est pas une génération de fainéants. Elle a une envie de travailler différente de la nôtre. Et c'est finalement plutôt sympa de se dire qu'on ne détient pas toute la vérité.
Interception sur France Inter.
Dans son livre « Manager la génération Z, mieux appréhender les nouveaux comportements », la chercheuse Elodie Gentina cite une étude de l'Institut Opinionway. Il en ressort que la Gen Z se caractérise par une forte envie d'entreprendre. La moitié des jeunes de cette génération souhaitent travailler sans horaire établi, ce qui ne veut pas dire ne pas travailler. Au contraire, dans cette génération, beaucoup ne comptent pas leurs heures dès lors qu'ils exercent en indépendant. On retrouve Faouzi Trita dans le sud-ouest, dans les rues de Toulouse.
Bonjour. Bienvenue dans mon kiosque. Salut, ça va ?
Et ça va et toi ?
Ouais, ça va, merci.
Je suis à Toulouse, la Ville Heureuse, quartier François Verdier, avec Valentina Curieri. Elle a 23 ans et depuis quelques mois, son kiosque à journaux est devenu une attraction dans le quartier. Puisqu'à 23 ans, elle s'est lancée, elle tient désormais un kiosque en plein centre-ville donc. Et c'est même la plus jeune kiosquière de France.
Bah, c'est important pour les revues et ça dépend s'il pleut ou pas. Quand il pleut, je les mets un peu différemment, mais quand il fait beau comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soleil. Je permets de m'étaler un peu, voilà. On a les mots croisés ici avec les mots fléchés, enfin tous les jeux quoi. Et je mets, enfin en fonction de ce qui me semble, ce qui va un peu plus parler à ma clientèle que je commence un peu à connaître. Et après je mets mes petites plantes, donc j'en ai quelques-unes parce que j'aime bien quand c'est un peu plus vert. Ça change un peu, ça fait plaisir. Et après je passe beaucoup d'heures ici, donc en vrai autant que ça soit joli. Et là, je sors la table. Alors, c'est une table un peu bistrot. J'ai voulu reprendre le style parisien, tu vois.
Comment une jeune se retrouve là, quoi ? C'est hyper surprenant. C'est vraiment ce qui frappe tout le monde.
C'est pas un truc si ouf que ça, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est normal. C'est un kiosque, ok ? C'est un truc pour vieux. Les choses qui marchent bien, c'est quand on leur donne un nouveau concept. Donc, moi, j'ai créé mon concept et jusqu'à présent, bah, ça marche bien. Il faut juste s'écouter. À un moment, il y a quelque chose dans moi qui m'a dit « fais ça, j'ai fait ça ». C'est tout, je saurais pas te dire plus, non, vraiment, genre, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai fait. Je ne me suis pas demandé une fois si c'était bon ou pas. Je ne me suis pas posé la question du risque. Je me suis dit, les risques, il y en a partout. Je préfère plutôt regretter de l'avoir fait et me prendre une claque dans la gueule qui me dise « Ouais, t'es pas capable à faire ça », plutôt que d'attendre et de croire un miracle et de vouloir faire des beaux choses sans me bouger le cul. Bonjour.
Mais je vous prie, les mots croisés du monde, le numéro 11.
Ah, je les ai pas ceux-là, madame, je les traite pas. Pour l'instant, je les ai pas, non. Je suis navrée. Au revoir.
Bonjour.
Salut. T'es venu pour le numéro ?
Oui.
Et merci. Voilà. Avec plaisir.
À bientôt.
Ciao, bisous. C'est pas du tout mon domaine. Moi j'étais en droit, après je suis allée faire la cuisine. J'étais en cuisine avec mon chéri. Et voilà, donc rien à voir. Mais je sais pas, c'est quelque chose vraiment dès le début, ça m'a parlé. Je cherchais pas de travail, non. J'avais un travail, j'étais avec mon chéri, je travaillais dans son resto. J'ai répondu à l'annonce, il y avait que moi qui était intéressée. Et j'ai fait le nécessaire après comme démarche pour avoir le kiosque. Et en 3 mois, j'étais installée. Là, ce que je fais, c'est que probablement je vais mettre un peu de musique. Il faut y aller à la playlist française, il faut y aller à la playlist anglaise. Parce que moi, j'écoute un peu de tout. Tu veux écouter quoi ?
Moi, je suis très rap français.
Tu veux du rap français ? Alors, attends. Je connais 2-3 titres. Du Bonino !
3 grammes, 3 clopes, je vais peut-être mourir comme Malcolm. Philippe Lain, René Lacoste, me feront tomber dans la drogue. Je n'oublie pas, mais je pardonne. Méfiant, méfiant, mafieux comme Al Capone. Et les derniers seront les premiers quand ils pourront tricher. Dans le quartier, c'est trop miné.
On se trouve tricher. Ah, celle-là, elle est très belle, celle-là. En fait, je le fais pour moi. Je le fais pour la petite Valentina de 13 ans qui rêvait de plein de choses qu'aujourd'hui qu'elle a. Je sais que mes rêves peuvent devenir réalité et ce n'est que moi qui peux le faire en fait. C'est personne d'autre en fait. Et c'est moi qui ai la clé de mon succès. Et donc, ça tient à quoi ? C'est de te lever à 6h du matin et de les bosser ? Bah, pas de soucis, je vais y aller, tu vois. Mais je sais que c'est que maintenant. Après, je vais profiter, t'inquiète, hein. Mais pour moi, c'est normal. Genre, si tu le fais pas maintenant... Et si tu donnes pas de tout de toi maintenant, tu rentres pas le soir, t'es pas flingué. Je fais des 70 heures des fois même par semaine, mais je l'ai fait, je ferme ma gueule et voilà. Parce que je sais très bien que si je veux plus, bah faut que je travaille. Et il n'y a pas de secret en fait.
J'ai jamais voulu jouer les hippies. Je vis bien moins d'amour et d'eau fraîche que de films de boules et de whisky. Je parle pas d'éclater des truffes à midi. Je parle du minimum vital qui fait qu'à 16 ans je me suis dit... Va falloir être réaliste, va falloir trouver des thunes avant de devenir un vrai artiste. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces.
Moi je te dis, je rêve un jour de boire un café avec, avec Morgan Freeman. Voilà, parce que j'adore cet homme. Et je sais qu'un jour je vais le rencontrer. Comment, je sais pas, mais je sais que ça va arriver. Tu vois, mais faut rêver.
Quitte à commencer vraiment dans un secteur qui n'est pas forcément le tien.
En fait, faut essayer. Et au final, t'auras que de l'expérience. Hein. Je pense qu'on nous a pas appris à rêver assez. On nous a montré qu'on a des limites. Or que, par exemple, dans mon cas, j'ai pris un kiosque. On s'est tout foutu de ma gueule. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un kiosque, tu vois ? Ça me permet de travailler pour moi-même, ça me permet d'avoir du temps et ça me permet de parler avec des gens, chose que j'adore. Alors, passer du temps avec les gens. Faut pas se mettre de limites, faut s'écouter, faut risquer, faut essayer d'apprendre tes erreurs, d'apprendre tes expériences. Tu rencontres du monde, tu te fais tes contacts. Enfin, faut savoir te dire, ok, moi je suis destinée à plus que ça. Je faisais du droit. Je me suis dit, non mais ça va pas. Tu crois que moi je vais passer ma vie à faire des cas pratiques, à résoudre des cas 20 heures derrière mon bureau. Je peux pas. Mais je sais que je dois taffer pour y arriver parce que t'as rien sans rien. Faut juste arrêter d'être flemmard. Voilà, si ça a commencé par un kiosque, ça commence par un kiosque. Je m'éclate en venant ici, je m'éclaterai ailleurs, tu vois. Mais je ferai pas quelque chose où je ne suis pas bien et où je m'éclate pas.
Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces,
prends des pièces.
Pas de chef, pas d'hiérarchie, pas d'horaire, travailler pour soi, pas pour les autres. Et surtout, faire une activité qu'on aime, qui nous anime, qui nous donne envie de se lever le matin. Dans cette génération, beaucoup se lancent seuls, comme des entrepreneurs. Valentina, par exemple, avec son kiosque. Ou bien Maxime, un YouTuber que je vais maintenant rencontrer pour terminer ce reportage. Je suis en région parisienne, devant chez lui. Alors, si vous le cherchez, son pseudonyme sur Internet, c'est Maxime Click. Il a 1 million de followers sur YouTube, ou plutôt en bon français, il a 1 million d'abonnés.
Salut! Comment va-t-il?
Ça va très très bien.
Faites attention aux marches, c'est assez ancien.
C'est champêtre.
C'est champêtre, exactement.
Ça va, on a davantage l'habitude de te voir derrière un écran.
C'est vrai.
Hop.
Alors moi j'aime bien l'espace. Parce ouais. que en fait ça aide beaucoup à la création. Bon, pour autant je ne suis pas une des plus grandes fortunes de France, du coup j'ai choisi de me mettre en coloc. Et c'est un bon entre-deux en vrai. Donc là, vous avez un salon où on chill, comme disent les jeunes.
Donc là, actuellement au Parlement, il y a un mec qui fait des vidéos tous les jours où il nous montre sa fiche de paye de 8000 euros. Du coup, au lieu d'engager des assistants parlementaires, il a engagé son ancien prof de lycée qui est devenu son meilleur pote. Depuis des années, tous les mois, on apprend les noms de nouveaux youtubeurs qui sont morts à cause des mukbangs. Le pire, c'est que plus on avance dans le temps, plus cette trend, elle devient dangereuse. En 20 jours, il y a le juge du Guinness qui est là, on bat le record, on a le trophée, énorme soirée, c'est incroyable.
Alors Maxime, t'as 22 ans.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours avant que tu sois devenu créateur de contenu à succès?
Alors, j'ai eu une enfance assez bien. Genre, j'ai eu mon bac à 11 ans et demi. Pas du tout. J'aurais aimé être surdoué. Non, non, j'ai eu vraiment une enfance classique d'un enfant qui n'est pas très à l'aise socialement, mais j'étais un mec un peu dans son coin avec 2-3 potes et ça faisait le taf. Mais par contre, moi, j'ai toujours kiffé. Genre, moi, ma première grande star, tu vois, c'était Cyprien. C'était pas Kobe Bryant ou c'était pas Lionel Messi. Ça a toujours été genre un YouTuber. Mais donc, ouais, moi, j'ai grandi vraiment avec cette génération un peu YouTube et tout. Et très vite, ça m'a donné la dalle. Et après, bah, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait un an d'école de commerce. Mais ça m'a pas plu du tout. C'était trop carré et tout. Moi, j'avais besoin d'être un peu plus créatif. Après, du coup, je décide de me lancer. Je plaque un peu tout pour me lancer en solo. Alors, au début, évidemment, ça ne marche pas. Puis en fait, je fais une vidéo par jour, tous les jours. J'étais fatigué, j'avais les cours à côté, mais on continue. Et puis à un moment, dans le brouillard, t'as une petite lueur d'espoir. Je me rappelle ma première vidéo qui marche, je suis devant ma télé, j'actualise les vues. D'ailleurs, si tu veux, je peux te montrer où je fais mes vidéos. Mm-hmm. J'ai fait ce choix de ne pas avoir de bureau, parce que j'aime bien quand même être dans ma chambre. Un peu retour aux origines. Bah là, l'après-midi, moi, généralement, je fais de la veille. Donc en gros, je vais regarder plein de vidéos. Je vais aller sur ce réseau social un peu... dangereux pour la santé mentale, mais à la fois intéressant quand même, qui est Twitter. Là, par exemple, j'ai mon tableau de production. Alors moi, j'étais vraiment pas organisé de base. J'écrivais une vidéo courte pour le soir même. J'ai toujours fait ça depuis 2 ans. Et là, maintenant, je suis obligé de planifier à l'avance tout. C'est une galère. Par exemple, là, vous avez des projets. Ils passent de idée à en écriture, à tourner. Mais là-dedans, je mets mes notes, j'écris mes blagues. Donc là, on a une chanson de moi déguisé en dinosaure.
Ouais.
Et on s'est bien adapté au marché, vu qu'elle a bien marché. Là, on dirait pas, mais j'ai pris un mec pour faire le son, un mec qui m'a aidé sur les paroles. Bon, le clip, j'ai fait tout seul, mais il a été monté par un prestataire. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements pour un délire vraiment un peu stupide. Enfin, c'est pas stupide, mais je trouve ça vraiment...
Enfantin.
Mais ça va pas changer le monde, savoir est-ce qu'on peut percer sur YouTube Kids.
On a quand même l'impression que tu vis dans un autre monde.
Ah ben, c'est un peu le but. Tu peux choisir d'où tu taffes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes hein, qui sont en recherche de ça. Il y en a de plus en plus qui vont vivre à l'étranger, qui travaillent sur leur PC et tout. Donc ouais, en fait, tu te construis un peu ta vie, quoi. Et moi, mais c'est un rêve de gosse. Enfin, moi, je vis constamment un rêve de gosse. Pour autant, évidemment, t'as quand même des galères. Une dette à régler énorme de l'URSSAF parce que t'avais pas oublié de chacun document, parce que t'es en tournage, là, tu te trouves avec des sommes folles à devoir régler. Enfin, en fait, c'est un métier qui est complètement nouveau. Je voyais un mec sur Twitter, un créateur, qui se plaignait justement qu'il savait pas qu'il fallait qu'il déclare l'URSSAF, la TVA, en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois. Et ça, c'est un truc, mais personne te le lit. C'est aberrant. Plein de trucs comme ça, quoi. Et puis puis ce qui est marrant avec cette vie-là, et ça t'en parle à n'importe quel créateur, c'est qu'en fait elle fait grandir quoi. À 22 ans, normalement, tu peux pas dire à un mec, ok, bon, ben, je vais te payer, en échange, tu vas me faire ça et tout, donc t'apprends sur le tas, donc ça te fait grandir dans tes relations avec ta famille, etc. Tu découvres plein de trucs, ta vie va à 1000 à l'heure, enfin, c'est vraiment cool. En fait, c'est le meilleur truc. Il y a plein de gens qui veulent être libres et la liberté a un prix. Moi, je suis un énorme flemmard. J'étais devant mon PC, je jouais toute la nuit et tout. Jusqu'à ce qu'en fait, ma passion, ça devienne mon taf. Et là, j'ai dit, mais on charbonne comme un malade. Ma thèse, moi, c'est qu'en fait, on est tellement sur les réseaux à voir, tu sais, tu vois la vie d'un mec, la vie d'un truc, qu'en fait, t'as envie de tout faire. Mais je pense pas qu'on soit des flemmards. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, au moment où ils vont trouver leur voie, ils vont tout défoncer. Notre génération va faire des trucs, mais c'est logique qu'aucune autre avant n'a fait.
Génération Z, d'une autre vision du travail, un reportage de Fawzi Trita, prise de son Lucien Lefebvre. Réalisation Lucie Lemarchand, mixage Jean-Louis Deloncle, attaché de production Martine Messonnier. Vous pouvez écouter ou réécouter Interception en podcast en vous abonnant dès à présent à l'émission via l'application du groupe Radio France.